4 heures plus tard, une mélodie de 10 notes hurlait dans ma tête, sortie de Dieu sait quel recoin de ma mémoire. Effaré, assis sur le lit, je reconnus le numéro de téléphone qu'avait composé Olaf avant de trépasser. Et si c'était le numéro de la villa? Il y avait un appareil près du lit, mais le numéro n'y était pas indiqué. Je n'allais pas faire des recherches au milieu de la nuit. Mieux valait me rendormir sans oublier ce numéro. Je pouvais me fier aux souvenirs. Ne m'avait-il pas éveillé à 4 heures du matin? Hélas, je savais par expérience l'absurdité de la mémoire qui fournit les informations quand elles ne servent à rien et se tait lorsque le renseignement est indispensable. Je ne connaissais pas l'écriture musicale. Si seulement j'avais pu noter cette mélodie. J'allumai la lumière, pris un papier et un crayon, j'inscrivis 10 points en fonction de la hauteur du son et les reliai comme une constellation. Le moins qu'on pût dire était que ce système de notation était rudimentaire, mais la mémoire se satisfait parfois d'un support infime. Sans doute ce gribouillage eut-il du mal à me rassurer car me rendormir tint du miracle. L'absurde chansonnette à 10 notes me collait au crâne comme si ma tête avait contenu un indigent mécanisme qu'on ne pouvait enrayer. Cela m'évoquait les 5 notes qui, dans Rencontre du troisième type, servent à correspondre avec les extraterrestres, et que tous les habitants de la planète se mettent à jouer frénétiquement pour appeler les martiens. Et moi, qui appelais-je? À un moment, l'accord me tapa sur le système au point de m'arracher un cri. L'instant d'après, je me demandais si Sigrid m'avait entendu. La seconde suivante, j'espérais qu'elle m'ait entendu et qu'elle court dans ma chambre vêtue d'un déshabillé de satin pour s'enquérir de mon émoi. Je prétexterai un cauchemar et la prierai de rester à mes côtés, de poser sa main douce sur mon front fiévreux et de me chanter une berceuse. Cela ne se produisit pas. Je songeais à crier plus fort, mais je n'osais pas. Pour museler la mélodie dans ma tête, je m'orchestrai « Strawberry Fields », puis « Enjoy the Silence », puis « Satisfaction », puis « Bullet with Butterfly Wings », puis « Newborn ». Cette cacophonie ne m'aida pas. La suite de 10 notes stupides émergeait par-dessus les Beatles, Depeche Mode, les Stones, les Smashing Pumpkins et Muse, comme de la mauvaise herbe phonique. En compensation, ces efforts m'anesthésièrent de fatigue et je me rendormis. Je m'éveillai à 10 heures du matin. Je bondis, enfilai le peignoir éponge blanc et descendis. J'appelai Sigrid, la cherchai. Elle n'était plus là. « Le dimanche, je reste ici, c'est le seul jour de la semaine où vous aurez à subir ma présence », m'avait-elle dit. Nous étions lundi. Découragé, j'allai à la cuisine. Elle m'avait préparé du café et acheté un sachet de croissants. Je lus sur un papier ce message. « Cher Olaf, j'espère que vous avez bien dormi. » Je rentre ce soir vers 19h. En cas de problème, appelez-moi sur mon portable au 06. Bonne journée, Sigrid, Versailles, le 24 du 7-2006. Elle avait signé du prénom que je lui avais attribué. Je me demandais quel effet cela lui avait fait. Je l'aurais volontiers appelé pour lui poser cette question, mais je pensais que ce serait déplacé. Un homme très important ne perdait pas son temps à de tels comportements. Biscuit vint me regarder fixement alors que je mangeais les croissants. Je lui entendis des morceaux qu'il dédaigna, l'air de dire qu'il n'était pas chat à se contenter des miettes du festin. Il esquiva aussi mes tentatives de caresses sur son gros dos. Cet animal n'aimait pas les étrangers. Tout en buvant du café, je saisis l'appareil téléphonique de la cuisine et composai 06. Cela ne correspondait déjà pas à la mélodie qui avait hanté ma nuit. J'appuyai sur 01, qui lui correspondait. C'eût pu être aussi 04 ou 07, mais Olaf avait précisé qu'il appelait Paris. À moins qu'il n'ait menti, bien sûr. Il n'était que 10h30. Je continuerai les recherches plus tard. J'allais mariner dans un grand bain. Si j'avais été Baptiste Bordave, J'aurais été en train de travailler au bureau avec mes collègues. Comment avais-je pu perdre tant d'années de ma vie à une occupation dont je gardais si peu de souvenirs? Je me laissais ramollir dans l'eau chaude. J'étais heureux comme un champignon séché mis à tremper dans du bouillon. Retrouver mon volume d'antan était délectable. J'ai toujours eu pitié des légumes lyophilisés. À quelle vie prétendre quand on a perdu son humidité? Sur les paquets, on affirme que le produit sec a conservé toutes ses propriétés. Si on interrogeait le végétal cartonneux, nul doute que son opinion divergerait. L'imputrescibilité. Quel ennui! Depuis que je m'appelais Olaf, je me sentais poreux. À l'exemple de la semoule de couscous, j'absorbais le liquide environnant. Si cela continuait ainsi, mon corps allait occuper le volume entier de la baignoire. Vu la quantité de gel mousse scandinave que j'avais versé dans la marinade, mes tissus auraient un goût de savon. Quand mon cerveau commença à s'imbiber lui aussi, je sortis du bain. Il valait mieux préserver sa centrale en état de marche et éviter les courts-circuits. Dans le miroir, j'avais la couleur d'un homard cuit. Je revêtis le peignoir et descendis dans le salon. Il y avait une chaîne stéréo telle que Baptiste Bordave n'eût jamais rêvé d'en posséder. Les Suédois et la haute fidélité s'étaient connus. Je songeai que j'étais là depuis un jour et deux nuits et que je n'y avais encore entendu aucune musique. Le dernier à avoir glissé un CD dans l'appareil devait être Feu Olaf. S'il était comme moi, il n'avait pas rangé le disque après écoute. Je fis l'expérience en allumant, puis en appuyant sur la touche play. Mon cœur battait fort à l'idée d'écouter la dernière musique ouïe par mon prédécesseur. Les premières notes signalèrent que c'était du classique. Soulagement, j'échapperai à des suédoiseries style ABBA. Très vite, j'identifiai le Stabat Mater de Pergolèse. Afin que le moment soit parfait, j'allai chercher à la cuisine un verre du Clos Vougeot de la veille. Je revins m'étendre sur le canapé et savourer la grande musique et le grand vin. C'était celui que buvaient les convives effarés du festin de Babette. Décidément, les Nordiques s'y connaissaient en Bourgogne. Je fronçai les sourcils. Le dernier à m'avoir parlé de vin de Bourgogne était ce caviste au téléphone juste après la mort d'Olaf. Franchement, avais-je jamais eu un caviste? À plus forte raison, un caviste bourguignon. Baptiste Bordave ne buvait pas si noblement. Il y avait un peu trop de vin de Bourgogne dans cette histoire. Cela devait faire partie du complot. Je me rappelais que j'avais prévu d'effectuer des recherches téléphoniques pour retrouver le numéro du dernier correspondant d'Olaf. Hélas, le Stabat Mater avait recouvert la mélodie dans mon cerveau qui avait bon goût. Entre Pergolèse et France Télécom, le choix n'était pas difficile. Il n'empêche que j'avais besoin de ce souvenir décaphonique. Comment le déterrer de ma mémoire? Je tournais en rond en m'arrachant les cheveux. Rien n'est plus ardu que de désenfouir une ritournelle simplette de sa tête envahie par un orchestre sublime. J'avais l'impression de creuser sous une ville splendide pour révéler au jour les ruines d'une bourgade sans prestige. Cette archéologie absurde acheva de me rendre fou. Je commençais à gémir des « ta gueule, Pergolèse » de plus en plus frénétiques. Biscuit me contemplait avec mépris. Je courus à l'étage chercher le gribouillage de la veille. Il se révéla aussi peu mnémotechnique qu'une pelle à tarte. Je criai au désespoir. Je redescendis. Dans la cuisine, je retombai sur le message de Sigrid. Son numéro de téléphone correspondait à la date de ce jour. Je pris ce prétexte pour l'appeler. Elle répondit tout de suite. « Est-ce que c'est une coïncidence ?» lui demandai-je. Que votre numéro soit celui de la date d'aujourd'hui. Non, je change de numéro chaque matin. C'est un procédé pour toujours savoir quel jour on est.
Vraiment?
Voyons, Olaf, bien sûr que c'est une coïncidence. Sans vous, je ne l'aurais pas remarqué. Il n'y a que vous pour observer de tels détails.
Vous croyez?
Oui, des formations professionnelles, j'imagine. Elle me quitta en termes agréables. Je me demandais quel métier pouvait déformer un cerveau de cette manière.
Agent secret?
Oui, un agent secret aurait un tel souci des détails.
ma paranoïa rendrait de précieux services dans le contre-espionnage. Et si mon prédécesseur recevait chez lui un agent secret, exerçait-il lui aussi cette profession ? Le cerveau est un ordinateur chaotique. La mélodie du numéro à 10 chiffres jaillit de ma mémoire. C'est toujours comme ça, c'est quand on ne cherche plus les informations qu'on les trouve. Je remontais et entrais dans chaque pièce. Une vaste chambre avec bureau. Ce devait être celle d'Olaf. Je m'assis à son secrétaire. Vu le nombre de numéros inscrits sur son répertoire téléphonique, il me faudrait 1 siècle pour identifier celui de la mélodie. Aussi disposais-je de tout mon temps et n'avais-je que cela à faire. Je m'y attelais à l'instant. Dès qu'un numéro débutait par 01 ou 04, je décrochais le téléphone et tapotais sa partition, m'arrêtant à la première divergence avec la décaphonie recherchée. L'ordre alphabétique en valait un autre pour épauler ma démarche. À la lettre B, je constatais non sans soulagement qu'aucun bordave n'apparaissait. Olaf et moi semblions par ailleurs n'avoir aucune relation en commun. Je préférais. Les tâches monotones et stupides m'ont toujours plu. Sinon, comment aurais-je pu travailler si longtemps dans un bureau ? J'aime me sentir opérationnel sans avoir le cerveau crispé par l'effort. C'est mieux que l'inaction. Cela libère la tête de l'angoisse. Les plus belles rêveries se produisent lors des boulots les plus bêtes. Ce pilotage automatique n'empêche pas la matière grise d'analyser l'activité de fructueuse manière. À la longue, cette notation musicale à 10 chiffres me devint si familière que je n'avais presque plus besoin du clavier pour l'entendre. Moi, qui ai toujours admiré ceux qui lisent les partitions en se récriant sur leur splendeur, j'étais fier de mon minuscule progrès. Parfois, un nom m'inspirait et me déconcentrait. Deskoviak Elzbieta. Ce devait être Elisabeth, en polonais. Elzbieta, c'est joli. Rencontrer une Elzbieta Deskoviak, cela préparait l'esprit à l'étonnement. Pas comme démarrer Paul à la ligne suivante. Ou alors, c'était un préfixe téléphonique qui relançait la machine à rêver. 00822. Quel pays était-ce ? Ou plus fou encore, 0012 entre parenthèses 479. Ce devait être une petite île du Pacifique. Le téléphone existait-il donc là-bas ? J'imaginais le type au sommet de son cocotier redescendant à la vitesse grand V parce qu'il entend la sonnerie de son combiné. Comme les sales gosses, j'étais parfois tenté de les appeler. Ce n'était pas moi qui payais la facture, alors pourquoi se gêner ? Allô, quel est le nom de votre pays ? Quelle heure est-il chez vous ? Ces sottises me ralentirent. À 13h30, je n'en étais qu'à la lettre E. Je redescendis dans la cuisine et me préparai un sandwich au cresson. Délicieux. Mais il faut bien nettoyer le cresson, sinon on attrape une maladie atroce que seul le cresson peut donner, une horreur dont on meurt en souffrant le martyre. De telles informations rendent le cresson remarquable. C'est comme ce poisson japonais, le fugu, qui est au sashimi ce que la roulette russe est au jeu de société. Je retournai au répertoire. En mangeant, j'avais oublié mon apprentissage de notation musicale. Je dus recommencer à tapoter sur les touches l'air d'un débile mental qui a découvert un nouveau jeu. Soudain, le téléphone sonna. Paniqué, je ne sus quelle attitude adopter. Je finis par décrocher pour que cesse le bruit insupportable. C'était Sigrid.
« Excusez-moi, Olaf. Avez-vous des nouvelles de mon mari ?»«
Non. Étais-je censé décrocher ?»«
Comme vous voulez. Vous êtes chez vous. »
Elle ne savait pas à quel point c'était vrai.
J'ai appelé plusieurs fois, cela sonnait presque toujours occupé,
dit-elle. En effet, répondis-je, très embêté. Pardonnez-moi.
Mais non, je vous en prie.
Vous vous inquiétez pour Olaf.
J'ai l'habitude, et j'aurais tort de m'inquiéter, n'est-ce pas?
Bien sûr. Je raccrochai, honteux d'un tel mensonge. J'ai l'habitude, avait-elle déclaré. Fallait-il y voir confirmation de l'hypothèse de l'agent secret? Dans quel autre métier disparaît-on sans avertir sa femme ? Et si j'étais le chef d'un important réseau de contre-espionnage ? J'aimais cette idée. Moi qui n'avais jamais été mystérieux, cela me changeait. Hélas, combien de temps allais-je pouvoir esbrouffer la charmante Sigrid ?